Accent d'Europe, Catherine Roland.
So, you got to let me know. Should I stay or should I go?
Bonjour à tous, eh bien, ce sera should I go, clair et net, hein, ce sera le Brexit selon Theresa May. La Premier ministre britannique l'a dit très nettement, il aura sorti de l'Union européenne et du marché unique pour pouvoir mieux contrôler les frontières et l'immigration. L'intervention était en fait attendue depuis le 23 juin, jour du vote sur la sortie ou non du pays de l'Union européenne. Rien de rassurant donc pour les quelques 3 millions de ressortissants qui vivent dans le Royaume, car mercredi dernier, Theresa May a aussi répété qu'elle n'assurerait pas leur statut dans le pays tant que les Britanniques vivant en Europe n'auraient pas eux-mêmes reçu de garantie. Et c'est le reportage de Marie Billon.
A little over six months ago, the British people voted for change.
C'était un discours que les Britanniques attendaient depuis plus de six mois. Jusque-là, la Première ministre s'était contentée de dire et de répéter « Brexit signifie Brexit » sans préciser si elle voulait un Brexit dur ou mou ou rouge-blanc-bleu, comme elle l'a dit. Ce sera finalement un « hard Brexit ». Les électeurs le savent désormais, mais les quelques 3 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni, eux, ne sont pas beaucoup plus avancés sur leur sort.
Nous voulons garantir les droits des ressortissants européens vivant ici et ceux des Britanniques vivant dans les pays de l'Union européenne aussi rapidement que possible. J'ai dit aux 27 chefs d'État et de gouvernement que nous pourrions nous mettre d'accord là-dessus dès aujourd'hui. Certains y sont favorables, un ou deux autres s'y refusent. Mais je veux que tout le monde sache que cela reste une priorité.
Theresa May a fait ce discours depuis Lancaster House, dans le quartier de Westminster. Et justement, de l'autre côté de St James Park se dresse le Parlement.
Bonjour.
C'est là que Nicolas Hatton, le fondateur du groupe de pression The 3 Million, les 3 millions, se rend le lendemain matin. Lui ne veut pas que les Européens deviennent une monnaie d'échange, un capital de négociation. Et c'est ce qu'il compte dire aux députés.
Aujourd'hui, on vient au Parlement pour présenter un dossier à la commission parlementaire travaille avec le ministère pour trouver les solutions. On va présenter une solution qui propose en fait d'enregistrer les 3 millions d'Européens avec un processus rapide et simple. On veut aussi que nos droits soient reconnus avant que l'article 50 soit invoqué. Et puis finalement, on demande qu'une loi qu'on appelle primaire ici soit votée au cours de l'année pour protéger notre statut après Brexit.
Nous retrouvons Nicolas un peu plus tard dans les locaux du plus grand syndicat de la fonction publique au Royaume-Uni, Unison. Il est venu y rencontrer Katia Vidlac, une Française qui a pris contact avec les 3 Million à titre personnel et au nom du syndicat, car entre 70 000 et 100 000 ressortissants européens travailleraient dans ce secteur. Après son passage devant la commission parlementaire, Nicolas n'est pas beaucoup plus avancé et les Européens non plus. Il rappelle à Katia que pour ceux qui ne veulent pas attendre les bras croisés de savoir quel sort le gouvernement leur réserve, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire.
Alors, la procédure actuelle pour pouvoir sécuriser sa résidence, c'est une procédure qui s'appelle « permanent residence ». Ça se fait avec le ministère de l'Intérieur britannique, le Home Office. Et 30% des demandes sont rejetées actuellement. Quand on calcule 1 million de personnes, c'est 30% de 3 millions. Il y a 1 million de personnes qui sont vraiment à risque de ne pas pouvoir rester. C'est énorme. C'est pour ça qu'on parle de crise, en fait. On est dans une situation de crise. On a une angoisse collective énorme chez 3 millions de personnes et le gouvernement ne fait rien.
Ce sont plus de 85 pages à remplir pour ceux qui voudraient entreprendre cette démarche. Et les critères sont drastiques. Il faut bien sûr avoir une adresse, mais aussi des revenus réguliers et pouvoir prouver tout cela. Certains Européens disent avoir reçu un rejet accompagné d'une lettre leur demandant de quitter le pays. Le gouvernement a pris la peine de rectifier. Aucun Européen ne peut être expulsé dans l'état actuel des choses. Katia fait partie de ces gens qui sont inquiets, mais elle préfère, pour l'instant, ne rien faire.
J'ai envie de faire la démarche, mais des fois je me dis j'attends qu'il y ait un système en place qui soit un peu plus facile, parce que quelque part j'ai peur de cette réjection, j'ai peur d'envoyer mon dossier de 85 pages et d'avoir un rejet, parce que je crois qu'on a 6 mois en fait pour appeler la décision en fait. Donc je me dis, si j'ai un rejet, est-ce que j'ai vraiment envie mentalement de me mettre dans cette situation, en fait, dans cette bataille légale? Donc peut-être que je me mets la tête dans le sable, que je fais l'autruche, mais quelque part, ça me fait peur.
Katia s'est donc engagée avec le mouvement des Free Million. Elle était là lors de l'audition devant la commission parlementaire parce que le syndicat Unison veut aussi faire valoir les droits des Européens travaillant dans la fonction publique. C'est dans l'intérêt de tout le pays, dit-elle.
La plupart des gens qui s'occupent des personnes âgées, qui sont auxiliaires de vie, ou même dans les maisons de retraite, sont des gens qui sont migrants. Et maintenant, il y a une forte concentration de gens de l'Europe de l'Est qui travaillent dans ce secteur. Donc, pour nous, c'est très important de faire en sorte que ces gens puissent rester. C'est la contribution de ces gens au niveau de la société, mais aussi les salaires sont très, très bas. Donc, quand Nicolas parlait des gens qui peuvent avoir un problème pour avoir la résidence permanente, ces gens, en fait, sont dans la même catégorie.
Au-delà du règlement du statut des Européens déjà installés au Royaume-Uni, Unison s'inquiète pour ceux qui viendront plus tard, après le Brexit. Le syndicat travaille avec les employeurs, dit Katia, justement parce qu'ils ont peur de perdre cette main-d'œuvre. Ils craignent que les Européens deviennent des migrants comme les autres.
Il y a des manques dans beaucoup de secteurs, surtout dans l'hôtellerie, dans les restaurants, dans l'agriculture. Le problème avec les restrictions du mouvement des travailleurs, c'est que les employeurs vont devoir payer une taxe pour pouvoir employer. C'est ce qui se passe en ce moment quand ils emploient des travailleurs hors Union européenne. Et ça va avoir un coût conséquent. Et on a peur que ce coût soit directement donné aux travailleurs.
C'est pour ça que les Free Million demandent aux Européens et à tous ceux qui se sentent concernés de prendre contact avec leurs parlementaires locaux pour leur expliquer l'impact de cette décision sur leur vie ou leur travail. Dominique Grive, député conservateur pro-européen et ancien procureur général francophile, fait partie de ceux qui sont déterminés à protéger les Européens du Royaume-Uni.
Ça n'a aucun sens de donner l'impression qu'il va falloir qu'ils s'en aillent. Et d'ailleurs, je dois dire que, parlant personnellement, je crois qu'après le Brexit, il est presque certain que nous continuerons à avoir un régime spécial pour les citoyens européens voulant venir ici travailler. Parce que nous savons très bien que la base économique de notre pays est en partie facilitée par l'immigration venant des pays de l'Union européenne.
Malgré la bonne volonté de nombreux politiques, rien n'est sûr. Et beaucoup d'Européens ont toujours cette impression de ne plus être les bienvenus dans le pays.
Octara.de, Nachrichten aus dem Morgenland, schon heute.
Les musulmans, eux aussi, pas vraiment les bienvenus en ce moment dans nombre de pays européens. Depuis les attentats, la question de la place de l'islam dans la société crispe et crée parfois des tensions. C'est le cas en Allemagne. Alors, pour détendre l'atmosphère, deux Allemands, musulmans par ailleurs, ont décidé de détendre donc cette situation en créant un site internet satirique qui n'épargne pas grand monde. Pauline Curtet.
Celui qui ne nous suit pas sur Twitter sera lapidé. Tel est le slogan du site Noctara, créé l'an dernier par deux trentenaires allemands, Soufiane Al-Kayari et Derian Sami Sadiari. Leur objectif, décliner l'actualité à la sauce musulmane et avec humour, à l'image de sites très à la mode comme le Gorafi ou le Postillon en Allemagne. D'ailleurs, en arabe, Nocta signifie blague, et ils n'hésitent pas à pratiquer un humour parfois très noir. L'un de leurs articles proclame ainsi le nouvel an comme, je cite, « le meilleur moment pour lancer un attentat terroriste ». Dans la même veine, ils se sont moqués du terroriste du marché de Noël de Berlin, dont les papiers avaient été retrouvés dans le camion meurtrier en décembre, en titrant que « sans passeport, on ne pouvait pas entrer au paradis ». Les musulmans ne sont cependant pas les seuls à en prendre pour leur grade. En annonçant que le Père Noël s'est converti à l'islam ou que les poupées Barbie devront désormais porter le niqab, ils tournent également en dérision les critiques de l'extrême droite contre l'islam. Bref, ils utilisent l'humour pour s'attaquer à des sujets normalement très sérieux. Pour le moment, le site internet marche plutôt bien. Ils enregistrent plusieurs centaines de visites par jour, un chiffre qui augmente. Ses créateurs, eux, enchaînent les demandes d'interview et disent être surpris par la réaction positive de beaucoup de leurs lecteurs, musulmans ou non. Ils assurent d'ailleurs que jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais fait l'objet de menaces quelconques. Qui sait, peut-être arriveront-ils à atteindre leur rêve ultime, celui, je cite, « de faire rire les gens ensemble pour un monde meilleur ».
La bicicleta, la bicicleta.
Depuis 2014, après une longue attente, les Madrilènes bénéficient d'un service de location de vélos. C'était l'une des capitales européennes les plus en retard dans ce domaine. Deux ans plus tard, dans cette ville où le vélo a été longtemps méprisé, le bilan est mitigé. Des voies pour vélos, partagées avec les voitures, ont bien été marquées au sol. On compte 60 000 abonnés à un système plutôt bon marché, mais cela ne fonctionne pas toujours. Bicimad, le Vélib de Madrid, c'est le reportage de François Musso.
Nous sommes place Santo Domingo dans le centre de Madrid, entre la Puerta del Sol et la place d'Espagne. C'est un endroit stratégique de circulation, un nœud d'artère important pour voitures, motos. On compte 4 lignes de bus, une station de métro. Et au beau milieu de la place, un totem de Bicimadrid, alias Bicimad. Un des 165 totems, c'est-à-dire des stations municipales de location de vélos électriques, réparties dans les 8 districts de la capitale. Ici, c'est le totem numéro 23. Une quarantaine de vélos peuvent y stationner. On n'en compte que 7 présents, dont seuls 3 postes ont la lumière verte, signe que le véhicule est disponible. On retrouve Clara, 34 ans, une employée de banque qui affectionne ce moyen de transport. Elle sort sa carte annuelle Bicimadrid pour extraire un vélo, mais cela ne fonctionne pas.
Alors, puisque ça ne marche pas, je vais regarder sur l'appli. C'est un peu lent. Bon, on me dit que je dois vérifier mon solde, je vais voir. Le problème de cette appli, c'est qu'on ne peut pas connaître son solde. C'est un des défauts techniques qu'elle a. Bon, je vais appeler par téléphone pour en avoir le cœur net, car souvent on me dit que je n'ai plus de solde, et en fait j'en ai. Bonjour, voilà, j'essaie de réserver un vélo, on me dit que j'ai plus de crédit. Vous pourriez me confirmer combien il me reste sur mon compte ? Bon, résultat des courses, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils vont m'appeler d'un autre département pour m'indiquer mon solde exact.
Clara est une enthousiaste du système de location municipale, mais elle en convient, le système a de nombreuses failles, surtout informatiques. Et pourtant, reconnaissent les usagers, la situation s'est améliorée depuis septembre 2016. Bicimad appartenait à l'entreprise privée Bonaparte. Les complications étaient constantes et les pertes de 300 000 euros par jour, notamment en raison du vandalisme. Depuis septembre, pour 10 millions d'euros, cela a été racheté par la mairie. Depuis, cela fonctionne un peu mieux. Maïté, par exemple, une trentenaire qui travaille dans l'audiovisuel, est enchantée.
Moi, je l'utilise car ça permet de moins polluer et parce que je trouve que c'est un moyen de transport très pratique. Et en plus, comme ce sont des bicyclettes électriques, ça aide beaucoup, ça ne demande pas beaucoup d'efforts.
Mais tous ne sont pas satisfaits pour autant. Si on consulte la page municipale, on peut constater d'innombrables plaintes d'usagers. En 2016, la mairie a reconnu qu'un vélo sur 5 était en moyenne inutilisable pour des questions techniques ou parce qu'il se recharge. Pour l'opposition municipale, cette moyenne serait plutôt de 3 vélos sur 5 inutilisables, ce qui provoque nombre de frustrations. Emerson, un jeune Colombien qui circule aussi en skate et en métro, en a pris son parti.
Moi, globalement, je trouve que le transport est très bien organisé à Madrid. Tu peux louer où tu veux, une voiture, un vélo. Le métro est très bien organisé. Il y a des gens qui louent ces vélos par nécessité, mais moi, c'est un peu par plaisir. D'une manière générale, je considère que c'est un très bon système.
Majoritairement, malgré tous ces défauts, les Madrilènes approuvent le Bicimad. Mais comme le disent tous les sondages, la voiture demeure le transport roi. Et la bicyclette a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être vraiment respectée et valorisée.
C'est un livre assez personnel que nous livre André Crétenant dans la jolie collection L'âme des peuples, Suisse, invention d'une nation, c'est le titre, retrace 500 ans d'histoire en quelques dizaines de pages seulement. C'est aussi une déclaration d'amour à ce pays qui s'enorgueillit de sa prospérité et de sa neutralité. Et on commence par le mythe de Guillaume Tell, car oui, c'est une légende, comme l'a appris André Crétenant.
C'est un mythe que j'aime beaucoup et évidemment en interrogeant les historiens, ils m'ont dit que ce mythe n'existait pas, donc voilà, j'étais très malheureux. Et puis finalement je me suis dit que les mythes disent des choses précisément de l'âme des peuples. Les Suisses sont des gens qui prennent des risques, qui sont courageux, qui tiennent à leur indépendance, qui aiment les défis. Ce personnage qui accepte de viser avec un arc, une flèche, une pomme qui est posée sur la tête de son fils, c'est absolument dingue. Qui oserait ça? Et pourquoi Guillaume Tell accepte ce défi? à mon sens, c'est parce qu'il sait qu'il va le réussir. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que la légende dit qu'il a une deuxième flèche. Et quand on l'interroge et pourquoi il cache cette seconde flèche, il dit mais c'est parce que si j'avais loupé ma cible, alors cette seconde flèche, elle aurait été pour le bailli qui m'a obligé à faire cet exercice. Et vous voyez que cette seconde flèche, c'est une sorte d'assurance. Et vous voyez cette Suisse qui a développé les assurances, toute cette économie de l'assurance, voilà, il y a un lien. Et puis surtout, on le retrouve aujourd'hui aussi dans le climat politique, avec des partis politiques qui reprennent ces éléments pour dire, voilà, il faut rester indépendant, il ne faut pas adhérer à l'Union européenne, il faut plutôt rester un peu à l'écart de l'Union européenne.
Il y a donc Guillaume Tell. Et puis, ce tableau assez idyllique que vous dressez, puis en même temps, vous le déconstruisez un peu, parce que bon, évidemment, c'est une Suisse qui n'a pas de conflits sociaux, pas de chômage, une démocratie directe avec le système du référendum ou de la votation.
En Suisse, on vote à minima 4 fois par année sur toutes sortes de questions. Mais on est dans cette culture de l'exercice de la démocratie, et c'est sans doute aussi quelque chose qui manque le plus aujourd'hui, notamment en Europe, mais aussi ailleurs. On l'a vu avec l'élection de M. Trump, on l'a vu avec le Brexit. Et donc je vois que plus on a cette globalisation qui pose problème, plus on a des citoyens qui souhaitent prendre la parole, nous avons quand même un système où précisément les citoyens sont appelés à prendre la parole et à décider sur leur destin le plus immédiat.
Oui, des Suisses qui ont aussi décidé de leur destin par rapport à l'Union européenne. Ils ont longtemps hésité malgré tout et finalement ils ont choisi de rester en dehors avec certains avantages.
On leur disait il faut y aller, il y a des raisons surtout économiques qui font qu'on doit faire partie de l'Union européenne. Les Suisses en majorité, c'est vrai que c'était plutôt les Alémaniques. Les Romains étaient plus favorables, en tout cas si ce n'est à une adhésion, en tout cas un traité, on a appelé ça l'espace économique européen, un traité d'association très puissant. Mais voilà, les années ont passé, surtout on a vu qu'il n'y a pas eu de catastrophe économique. Et surtout la Suisse, grâce à ses diplomates, a réussi finalement à pouvoir participer aux libertés fondamentales. Elle fait partie de Schengen, voilà, etc. Et puis, par ailleurs, on voit l'évolution de l'Union qui est très en difficulté. Donc un petit pays qui est associé quand même très fortement avec l'Union européenne, qui en a pas mal d'avantages et pas nécessairement les inconvénients.
Donc une Suisse indépendante, autre caractéristique de ces Suisses, on en parle souvent, c'est donc cette neutralité qui a été mise à mal pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis derrière il y a eu de nombreuses critiques.
Oui, parce que la Suisse a continué à commercer avec les puissances de l'Axe, et donc évidemment elle a dû rendre des comptes après la guerre. Elle a aussi une attitude envers les réfugiés qui a été terrible, puisqu'à un moment donné vous avez un ministre, un conseiller fédéral qui a dit la barque est pleine, il y a eu pas mal de réfugiés juifs qui ont été refoulés à la frontière, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été acceptés, mais il y a eu ce phénomène. Et évidemment, après la guerre, ce sont des aspects assez noirs qu'on a un peu cachés. Tout ça est ressorti à la fin des années 80, au moment où le mur tombe, au moment où l'histoire depuis la guerre ressort. La Suisse est contrainte de faire le point sur cette période noire. C'est un grand exercice, je pense. Il y a peu de pays qui ont fait ce grand exercice de retour sur leur attitude pendant la guerre.
Qu'est-ce que vous direz aux détracteurs qui disent que finalement ce pays est trop beau pour être honnête?
Il ne faut pas non plus idéaliser un pays. Voilà, c'est un petit pays qui doit aujourd'hui, dans la mondialisation, essayer de se redéfinir, de se trouver et de faire en sorte que les qualités qui lui ont réussi par le passé puissent réussir à l'avenir.
Ouais, la Suisse qui doit aussi réformer son système bancaire, tant décrié, très opaque.
Absolument, mais en l'occurrence, la Suisse a fait aussi beaucoup de progrès sur ce plan-là. Précisément, à partir de 2017, il y aura un échange aussi automatique d'informations bancaires. Et aujourd'hui, si quelqu'un souhaite cacher de l'argent, il ne choisit pas tellement la Suisse, il choisit plutôt Singapour ou d'autres destinations.
André Kretnan, actuel directeur de l'information à TV5 Monde, qui publie dans la collection L'âme des peuples, Suisse, invention d'une nation. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, un peu de patience, le journal.